Bienvenue sur Ça vient des RH, le premier podcast passion qui parle des RH, parce que nous, on adore les RH, mais c'est tout ce qu'on déteste. On vous laisse découvrir pourquoi, juste après la page de réclame. Quoi ? On dit plus réclame ? Ben on dit quoi alors ?
Ça vient des RH ?
Ça vient des RH ?
Non, ça vient des RH ?
Ça vient des RH.
Quoi ? La réclame ?
Un grand merci à l'agence d'influence B2B Les Années Folles, chez qui nous enregistrons nos podcasts.
Bonjour et bienvenue à tous sur notre nouvel épisode de Ça vient des RH. Aujourd'hui, on va échanger avec nos invités sur le sujet, sur la thématique des seniors et de leur employabilité. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés d'Aurélie et d'Amélie que je vais laisser se présenter. On va peut-être commencer par toi, Amélie, t'es la plus proche de moi.
Bonjour à tous, donc Amélie Fabre-Guité, moi je suis la fondatrice de Talent Management Group qui comprend plusieurs marques commerciales, promis je le fais très vite, Madircom qui est un cabinet de recrutement et de conseil RH et de marque employeur, Pim My Career qui intervient dans les écoles de commerce, Boost Me Up qui est justement une plateforme digitale qui aide les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi et PG Coaching qui fait du coaching en développement perso et pro. Et accessoirement quand j'ai un peu de temps je fais un peu d'influence avec les années folles.
C'est ça. Merci. Oui, ça me parle.
Bonjour, donc moi je suis Aurélie Tressler, je suis avocate au barreau de Paris depuis un peu plus de 10 ans maintenant et je conseille notamment des salariés dans le cadre de rupture de contrat de travail et ça peut concerner notamment des salariés seniors et donc du coup je suis là pour vous éclairer sur les aspects juridiques de la thématique de ce soir.
Et nous avons beaucoup de questions.
Exactement.
Sur la thématique juridique. Donc merci en tout cas à vous d'être présente. Peut-être que tu veux démarrer par une petite question, Julie.
Je pensais que tu voulais que je me présente, mais non, manifestement, je n'aurais pas le droit à ce privilège. C'est bien dommage.
Tout le monde te connaît déjà.
Donc oui, évidemment, ce thème, il a été déjà demandé plusieurs fois, aussi bien en commentaire que chez nos abonnés, des millions d'abonnés. Mais on va commencer par une question un peu simple, mais qui va poser un peu la base des choses. On entend finalement beaucoup parler de l'âge des seniors. Si on devait dire à quel âge on est senior et sur quoi on s'appuie, puis ça serait quoi ? Quel âge ? Peut-être juridique et peut-être, on va dire, un âge RH ? Qui veut commencer ?
Pour le juridique, c'est la réponse, elle est assez simple et vous allez souvent l'entendre ce soir. Il n'y a rien de défini en fait dans la loi. Donc du coup, on n'a pas une définition de ce qu'est un salarié senior. Après, je laisserai à Amélie le soin de clarifier la notion. Mais pour ma part, dans la préparation de ce podcast, j'ai l'impression qu'on retient souvent la tranche d'âge de 55 à 64 ans. On commence à être senior à 55 ans.
Parce qu'on entend parfois 45.
Moi, je trouve ça tôt, personnellement. Mais je...
On n'a pas dit que c'était...
C'est peut-être parce que je m'en rapproche. Hein, donc...
Ah oui, c'est vrai. Ça, on remarquera aussi. On est jeunes de plus en plus tard en fonction du fait qu'on vieillit. Donc à 70 ans, on entend parfois des petits jeunes qui ont 80 ans. Mais enfin, bon, bref. Mais oui, peut-être que le 45 ans est lié au fait que, dans mes mémoires, c'était un accord qui était entretien de seconde partie de carrière qui disait 45 ans.
Oui,
c'est
vrai.
J'ai le sentiment que c'est resté un peu comme ça, mais effectivement, moi, je trouve que c'est quand même, ça n'a pas de sens, jeune, ça, c'est un peu ridicule, mais...
Senior, c'est un peu la seconde partie de carrière, t'as plus ou moins bossé 20 à 25 ans, et il te reste encore bien 25 ans à travailler, donc c'est vrai qu'il n'y a rien dans les textes, les statistiques, même en France... varie en fait selon l'humeur du gouvernement. Donc souvent ils vont nous prendre des stats à 55 ans, 55 64 ans. Puis de temps en temps, ils vont nous placer du 50 ans, ils vont nous faire du 50 60 ans ou du 50 62 ans. Donc c'est un peu selon leur envie pour pas forcément, je pense, non plus nous donner les vraies stats. Les 45 ans sont noyés dans tous les autres. Parce que t'as pas de 45 55 ans par exemple dans les stats.
D'accord, ok. Oui, donc en fait, là, on essaie en fait de comprendre l'âge qui permettrait de définir une population, mais ce que vous dites finalement l'une et l'autre, c'est qu'en réalité, il n'y a pas vraiment, ni compris dans les textes, ni compris dans les statistiques, quelque chose qui permettrait de figer une catégorie. Ouais. On est d'accord sur
oui, il n'y a pas de critères discriminants en fait, qui permettent d'identifier de façon stable la notion de senior.
Bon, on commence bien cet épisode.
Et est-ce que ça ne dépend pas aussi du type d'entreprise ? Parce que chacun a un peu sa notion de senior. Si la moyenne d'âge, elle est à 25 ans ou 30 ans, est-ce qu'on est senior plus tôt que dans une entreprise où la moyenne d'âge est plutôt autour des 45 ans ?
Alors, ça va dépendre aussi des métiers. Parce que t'en as qui vont se dire senior à 30 ans.
Oui.
D'ailleurs, on le voit souvent sur les cartes de visite. Pour ceux qui ont encore des cartes de visite. Ou digital maintenant.
Ou digital.
Mais on a souvent des postes de chef de produit ou chef de projet junior. Mm-hmm. Donc ça, tout le monde est OK avec ça. Et puis quand on prend un peu d'expérience, bah du coup, on passe au chef de projet senior.
Ouais.
Et là, tout le monde est ultra OK avec ce terme de senior, ne choque absolument personne. Mais quand, à mon avis, bah, tu deviens senior parce que tu as peut-être passé les 45, 50 ou 55 ans, là, d'un coup, tout le monde s'offusque. Et le mot senior devient l'ennemi public numéro un.
Oui, parce qu'il faut, vraiment décorréler le senior en termes de compétences du senior en termes d'âge. Et en fait, quand on parle de senior, j'ai l'impression qu'on on stigmatise une population âgée, entre guillemets, qui a du mal potentiellement à retrouver un emploi. Mais ça inclut pas les compétences, finalement.
Sauf que normalement, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'une personne qui a 45 ou 50 ans, c'est une personne qui est plus âgée que les autres. Donc, elle a pris de l'âge, mais ça veut dire aussi qu'elle a pris des compétences. Elle a de la bouteille et donc, elle peut aussi apporter tout ce package, j'ai envie de dire, à une entreprise. On ne peut pas demander la même chose à un jeune de 25 ans qu'à un jeune de 45 ans. Même senior, moi, je les appelle des jeunes. Et c'est se dire, bah oui, mais si je demande à une personne de 25 ans dans mon entreprise de faire certaines choses, je sais qu'il y a des choses qu'elle ne sera pas capable de faire parce qu'elle ne les connaît pas encore. Par contre, je sais qu'une personne qui a 45-50 ans, elle va pouvoir intervenir parce qu'elle a des compétences, elle a déjà vécu certaines choses, elle sait comment potentiellement gagner du temps, gagner de l'argent, elle peut faire appel à son réseau qu'elle a déjà dans le métier ou dans le secteur. Donc c'est ça qu'on vient chercher quand on vient chercher la seniorité. Pour moi, c'est vraiment le côté, ce sont des personnes expérimentées. C'est-à-dire qu'à partir de 45-50 ans, t'es censé avoir de l'expérience normalement.
Oui, sauf si t'es en reconversion ou ce genre
mais
de choses.
Mais même en reconversion, t'en as. Parce que t'as ton premier métier qui est toujours de l'expérience. Et du coup, t'as les fameuses compétences transférables que normalement, qui sont très chères.
On reviendra sur cette partie un peu pragmatique. Si du coup, est-ce que vous avez quelques chiffres à partager peut-être sur le marché de l'emploi des seniors? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont davantage concernés par le chômage ou pas? Ou ça dépend aussi de leur expertise? Qu'il y a une différence entre les cadres et les non-cadres? Est-ce que vous pouvez nous partager des statistiques telles l'INSEE le ferait?
Alors, telles l'INSEE, je ne pense pas. je sais notamment, parce que je n'ai plus les chiffres en tête, j'avoue, je ne suis pas allée les chercher non plus, mais qu'un profil senior va rester en moyenne quasiment 3 ans au chômage. Là où une personne qui est plus jeune va rester 6 à 9 mois grand max. Donc tu as quand même ce critère. Quand tu passes les 45 ans, et pour les côtoyer souvent, je le vois bien, au début, ils ne s'inquiètent pas trop. Mais quand ça fait 6 mois, 9 mois et qu'ils passent les 1 an de chômage, ils disent « mais je ne comprends pas, ça ne bouge pas ». Après, on a d'autres
tout métier confondu, du coup.
Tout métier confondu. Okay. Alors après, sauf si t'es vraiment le talent sur une pépite bien précise que tout le monde recherche, ce n'est pas trop problématique.
Moi, j'avais entendu, mais peut-être... Attends, excuse-moi, juste... J'avais entendu
du coup,
les
chiffres, moi, je les ai.
Ah, voilà.
On a enfin quelqu'un qui a fait son travail.
Bravo.
T'as bossé un peu.
Oui, j'ai un peu bossé mon sujet quand même. Et donc, du coup, on a en fait des études, une étude de la DARES, je crois, qui est sortie au mois de septembre et qui fait un petit peu le point sur les différentes stats sur le sujet. Donc aujourd'hui, en France, alors on a une petite progression depuis quelques années sur l'emploi des seniors. Le taux d'emploi, il est de 56,9%. C'est le plus haut niveau qu'on a depuis 1975 en France. Il est quand même en dessous de la moyenne européenne. On est au niveau de l'Europe, la moyenne européenne, c'est 62,4%. Ce qui n'est quand même pas délirant non plus, hein, quand on y pense. Alors, même si nous progressons en France sur le taux d'emploi des seniors, on est quand même en recul au niveau européen, puisqu'on était à la 16e place, qui n'était déjà pas terrible, et on est passé à la 17e place sur 27, en taux d'emploi des seniors. Et donc, du coup, ce qu'on observe, c'est que plus on avance en âge, donc le panel qui a été retenu, c'est 55-64 ans d'études. Et ce qu'on constate, c'est que plus on avance en âge, plus le taux en fait, de chômage augmente. Et que, effectivement, le taux de chômage touche plus les non-cadres, surtout les ouvriers et les employés, que les cadres qui ont tendance à rester en emploi plus longtemps.
Okay.
Donc voilà. Je ne vous détaille pas les chiffres, mais voilà, l'idée générale.
Est-ce que par hasard, tu aurais les chiffres? Parce que je crois savoir que les seniors, quand ils sont en emploi, ils ne sont pas forcément en emploi salarié, genre à temps plein, mais c'est plutôt du temps partiel.
Ouais, ça, j'ai pas.
Oui, alors, il y a, à mon avis, les possibilités d'avoir les fameuses, on en a déjà parlé sur d'autres épisodes, les fameuses catégories A, B, C, D, parce que sinon, c'est pas marrant. Moi, j'avais en tête, mais je crois que c'était il y a un an et demi, que le nombre de cadres à la recherche d'un emploi catégorie A, c'était quand même un demi-million. Donc, c'était pas une paille, c'était pas Ypsilon et c'était pas peu, finalement. Alors, en réalité, quand on étirait, on s'aperçoit que c'était sur plusieurs catégories, parce qu'effectivement, quand tu viens de le dire, la majorité des cadres créent une activité. C'est rare qu'un cadre reste à attendre un CDI. En général, il va devenir consultant et il tombe dans d'autres catégories, les B, les C, les D. Et donc, il sort plus dans la fameuse catégorie A et on a le sentiment que la part est très faible de cadres. la réalité des chiffres, elle est plus nuancée que ça. Et quand on regarde vraiment le taux de chômage complet, bah, en fait, on s'aperçoit quand même que chez les seniors, les fameuses pépites, en tout cas, qui ont beaucoup d'experts dont on s'arracherait les services, elle est quand même importante. Donc, je dirais que les chiffres, en fonction de ce qui nous arrange ou pas, on va plus parler d'effectivement taux d'emploi ou de la catégorie A ou cadre, pas cadre, assimilé cadre. Donc, les chiffres sont pas fifous, quoi, je trouve.
Et puis, oublions pas que les stats, c'est 55-64 ans. Il me manque toujours la catégorie des 45-55, hein, qui n'apparaît pas.
Et qui, pour toi, ferait baisser encore la moyenne ?
Clairement.
Parce qu'il y a une vraie rupture. Alors, est-ce que, du coup, on peut observer une vraie rupture ? Est-ce qu'on a des chiffres, ou en tout cas des analyses sur le fait qu'à 45 ans, on va prendre l'exemple de 45 ans, il y a vraiment des entreprises qui arrêtent des contrats, où on voit vraiment une vraie rupture nette.
Pas de papier officiel.
Où il y a des tendances peut-être qui ressortent, ou finalement pas tant que ça, et c'est un peu une vue qui est un peu une légende urbaine.
Pour moi, ce n'est pas une légende urbaine parce que dans Boost Me Up, on les voit arriver. Et à 45, moi, j'en ai même des fois de temps en temps qui me disent « J'ai que 38 ans, mais je suis au chômage, je peux quand même faire le programme. » Je fais « Oui, même si on communique sur 45, tu peux quand même. » Mais moi, la majorité, ils ont entre 45 et 55 ans. Ils n'ont pas 55 à 64 ans.
Et je trouve que c'est assez corrélé, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur les job descriptions, enfin, des emplois, il y a rarement, on cherche quelqu'un avec 20 ans d'expérience.
Mais tu ne peux pas, les job boards te l'interdisent.
Donc c'est 10 ou plus. Mais non, mais même dans le contenu, c'est vrai que je trouve ça fou de se dire, en fait, ça s'arrête à, t'as 10 ans d'expérience et plus, donc peut-être ça va jusqu'à 15, voilà, ouais. C'est ça.
Au-delà,
en fait, ça n'existe pas. Personne ne cherche quelqu'un avec 20 ans d'expérience, c'est comme si t'étais caduque, finalement, dans le marché de l'emploi.
Et parce que déjà, sur le job board en tant que tel, tu ne peux pas indiquer que tu recherches quelqu'un avec 15 ou 20 ans d'expérience. Le site te bloque à 10.
Ah bon, il te bloque
oui,
à 10.
Oui, même à Pôle emploi, si tu vas sur le site de Pôle emploi, il te bloque à 10.
Mais pas dans le corps du texte. En fait.
Non, mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue.
Quand tu fais une sélection, si tu veux faire une recherche dans les CV Tech, il te bloque à 10 ans d'expérience. Tu ne peux pas aller au-delà.
C'est quand même fou. Ça, je n'avais jamais. Je vais mettre une annonce. Je veux quelqu'un qui a au moins 15 ans.
Tu peux l'écrire, mais tu ne peux pas faire une recherche.
Alors que 10 ans, je peux mettre.
Oui.
Alors ça, c'est fou. Ça, je n'avais jamais testé, mais c'est quand même assez incroyable.
Ça s'arrête à 10 ans. Au-delà de 10 ans.
Et du coup, sur la partie peut-être un peu plus juridique, est-ce que. On sent que dans les entreprises, lorsqu'elles conduisent aussi un certain nombre de réorganisations cette fois-ci, il y a cette tendance quand même à se dire les seniors soit se repositionneront plus facilement et donc remettre en place des accompagnements, alors que, on va dire que les key people, les talents, qui ont peut-être plus, on va dire 25, 35, 40, on va étirer un peu, on va les conserver. Est-ce qu'on sait ce qu'on entend dans les discours de DRH ou pas tant que ça finalement ?
Alors, moi, dans les réorganisations, la question des salariés qui ont une certaine ancienneté est le premier sujet de préoccupation. Il l'est parce que on sait que c'est pas forcément ceux qu'on veut conserver. C'est vrai qu'on veut garder les forces vives. Souvent, il y a toujours aussi une considération économique.
Oui, bien sûr, c'est important de le dire, bien sûr.
Le moins cher. Et donc, du coup, c'est vrai que le sujet vient très vite sur la table, mais parce qu'on se préoccupe de savoir comment on va, en fait, leur permettre de retrouver un emploi en sachant qu'on sait pertinemment qu'ils vont avoir du mal. Donc, du coup, c'est un sujet que les DRH anticipent beaucoup et que, parce que ça va devenir un sujet qui... sera un des sujets les plus importants avec les partenaires sociaux dans la négociation.
Est-ce que ça existe encore ? Alors moi, quand j'étais jeune, il y a 20 ans, du coup, ce qu'on faisait assez régulièrement, quand on faisait des plans de départ rares, on essayait justement de jongler avec la durée d'indemnisation chômage qui était de 2 ans. On mettait en place des transactions pour faire un peu la rue Michel. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas une expression vieillotte que j'avais employée.
Pour faire la rue Michel.
Oui, ça faisait
longtemps. Ça.
Pour faire la jonction, ça marche aussi, entre le départ et l'obtention, on va dire ça comme ça, de la retraite. Est-ce que ça se fait encore ou non? Parce qu'en fait, la retraite est désormais tellement plus tardive à 64, 65, 66 que ça ne marche plus, ça ne peut plus fonctionner ces départs avec transaction.
Est-ce que tu le vois encore? Alors, ces départs-là, en fait.
Tu t'es pas écrit dans les question non plus, ça me vient comme ça.
Non, mais je peux te répondre, en tout cas, c'est vrai que je peux dire, ils le font pas de façon aussi ostentatoire, si tu veux. Okay. C'est-à-dire que quand tu fais, de toute façon, t'es pas censé, en fait, pouvoir identifier de façon aussi précise tes salariés dans le cadre de ton plan. T'appliques des critères d'ordre et c'est eux qui déterminent objectivement qui part, qui reste. Et donc, du coup, après, dans ton plan, quand tu sais pertinemment qui va sortir et que t'as quand même une petite visibilité là-dessus, ce qu'on fait souvent, ce qu'on prévoit souvent dans les plans, c'est une phase de départ volontaire et à ce moment-là, en fonction de la population qu'on a, donc ça suppose de bien connaître son entreprise, on va mettre en place des dispositifs incitatifs au départ en prévoyant, ben, on sait que le congé de reclassement, il va être de 12, 18 mois et du coup, ça va emmener jusqu'à liquidation de la retraite. Ou alors, je prévois un dispositif de rachat de trimestre, je prévois un dispositif En fait, c'est des façons de détourner, effectivement, d'inciter au départ, pour finalement partir déjà en retraite.
Ok.
Et ça se fait encore, l'outplacement, dans les négociations au départ? J'ai l'impression que c'était très à la mode à un certain moment et que ça c'est un peu moins proposé
sur les
aides. Okay. Ouais, je sais pas, c'est mon sentiment. Je sais pas si toi, Amélie, tu as une idée d'accompagnement.
Je vois encore des entreprises proposer de l'outplacement. Mm-hmm. Donc j'ai l'impression que ça se fait encore beaucoup quand même. Après, ça dépend peut-être de la taille de l'entreprise. Mm-hmm. C'est moins la PME qui va le proposer, parce que ça pareil toujours, hein, ça a un coût. Après, ça plaît. Après, il y a toujours la même chose, c'est l'efficacité de l'outplacement qui est derrière, parce que l'outplacement ne garantit pas de retrouver un emploi, il garantit juste de proposer des offres.
Oui, ouais, bien sûr.
Donc, dans l'absolu, c'est pas compliqué. Après, je connais plein d'organismes qui font de l'outplacement et qui se bougent énormément pour accompagner les profils seniors, mais qui les aident aussi énormément à recréer une activité, comme tu disais, que ce soit en portage salarial, ce genre de choses. Donc, ils vont les inciter à aller vers des formations. Parce que la formation aussi, du coup, ça les arrange d'envoyer les seniors en formation. Ça leur permet de sortir aussi du dispositif.
Ok.
Et est-ce qu'on peut s'étonner? Est-ce qu'il existe plutôt de la documentation qui permettrait de valoriser les raisons pour lesquelles il serait bien de recruter un senior? Parce que souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, parfois, on enfonce des portes ouvertes que je sais faire, très bien. Mais est-ce qu'on a vraiment un peu de statistiques? Parce que quand il y a le discours in, et puis il y a le off. Donc on aura certainement l'occasion d'en parler. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'objectif aussi de ce podcast. Le in, c'est il faut s'entourer des experts. Les seniors ont beaucoup de choses à apporter à l'organisation. Mais est-ce que quand on mesure la productivité concrète des seniors, est-ce qu'on a des analyses sur ça en se disant, oui, c'est vrai, objectivement, ils sont plus productifs. Donc malheureusement, c'est pas mécanique. Et avant, je vous laisse la parole. Je sais que moi, il y a un petit moment, on m'avait expliqué que quand on recrute un DRH de 50 ans versus un DRH de 35, 37 ans, il y en a un qui a 10 ans et l'autre qui en a 20. D'expérience. C'est pas mécanique que celui qui a 50 ans apporte beaucoup plus que celui qui a 37 ou 38 ans. Et on pourrait dire, c'est pas si vrai. Et donc, est-ce qu'on a un peu de retour et terrain? Alors, je lui ai dit que c'était un peu plus compliqué, mais est-ce qu'on a des retours sur ça?
Moi, j'ai pas connaissance de statistiques sur lesquelles on aurait étudié ce genre de choses. Ce que je sais, c'est que c'était McKinsey qui avait fait une enquête et qui avait démontré que les entreprises qui travaillaient avec des équipes diversifiées, donc que ce soit par l'âge, les origines, la formation, ce genre de choses, les équipes étaient 35% plus productives et plus efficaces qu'une entreprise qui n'avait pas d'équipe diversifiée. Mais ça, ce n'est pas que grâce aux seniors.
Oui.
C'est diversifié vraiment dans toute sa dimension.
Oui, ça, on a dans un épisode d'ailleurs précédent sur l'égalité homme-femme, ça a été aussi statistiquement démontré que quand il y a plus de femmes représentatives dans des boards, on sait que la performance, en tout cas, il y a des statistiques qui ont été faites, donc que les performances augmentent. Donc ça rejoint finalement ce que tu dis.
Toujours plus productive.
Voilà, je laisserai les propos à l'intéressé. Mais ça veut dire. Mais c'est ce qui est. En tout cas.
On a une punchline.
C'est pas faux. On va la conserver, celle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même un vrai sujet de préoccupation, y compris économique, fort, notamment avec les retraites. Donc, on va quand même assister à des conséquences sociales et aussi entrepreneuriales. Et que finalement, passer les émotions, parce qu'en France, on est beaucoup sur les émotions, mais quand on regarde un peu de l'analyse, au-delà des statistiques, mais vraiment de l'analyse de productivité pour dire aux DRH, qui doivent ensuite aller convaincre leur CEO, y compris dans les startups, qui est un environnement du coup que tu connais bien, recruter des gens qui ont 45, 48, 50, 55 ans, ce que finalement tu dis, finalement, il n'y a pas grand-chose, c'est quand même incroyable.
En fait, ce n'est pas tellement les compétences que tu mets en avant, c'est plus, mais comme il est plus senior, il va être plus fiable ou plus intéressé à rester longtemps, de manière pérenne dans l'entreprise. C'est moins, effectivement, sur les compétences, parce que je rejoins ce que tu dis et je m'interroge pourquoi. Je ne sais pas si vous avez des pistes de réponse, mais pourquoi ce n'est pas mécanique? Pourquoi à 38 ans, on en sait potentiellement autant qu'à 50? Enfin, parce qu'on ne fait pas assez de formation, parce qu'on ne reste pas à la page, parce qu'on ne change pas de voie, parce qu'on reste dans son secteur.
Parce qu'on ne se questionne pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a appris à aller à l'école, à faire une formation. On attend que ce soit l'école qui nous enseigne énormément de choses. Puis après, on arrive en entreprise. Puis on attend que ce soit l'entreprise qui nous propose des programmes de formation. Mmh. D'ailleurs, on le voit à peine 30% des seniors en entreprise ont accès aux programmes de formation interne parce que les formations vont plutôt vers les plus jeunes.
On en reparlera après.
Et c'est très français. Je fais souvent la guerre à ça, mais... C'est-à-dire qu'à un moment donné, le français attend que ce soit l'État ou l'entreprise qui fasse quelque chose pour lui. Mmh. À aucun moment, on a enseigné aux Français dès leur plus jeune âge que si tu veux réussir dans la vie, ça dépend de toi, de ce que tu vas faire et de comment tu vas développer tes compétences. Pendant la réforme de la retraite, quand il y a eu plein de personnes dans la rue et tout, avec leur pancarte, il y avait un homme qui disait moi, je ne me vois pas faire mon métier encore pendant 10 ans. Et moi, derrière ma télé, je dis, mais qu'est-ce qui... Je parlais au gars derrière la télé. Je dis, mais qui te dit qu'il faut que tu fasses le même métier, en fait?
Il t'a dit quoi? Il t'a répondu?
Non. Il m'a pas répondu, j'étais très vexée. Et en fait, en France, tu rentres quelque part, du coup, tu ne bouges pas. Et pour le profil de beaucoup de personnes seniors, c'est, je suis rentrée, j'ai fait ce métier, je sais faire que ça. Et donc, en fait, je sais pas si je peux faire autre chose. Et en fait... ils cherchent pas à se former et on voit bien le problème avec la formation. C'est dès maintenant qu'on demande aux gens potentiellement qui doivent mettre de l'argent pour se former. Ah mais non, j'ai pas envie. Ça veut dire que tu ne veux pas investir sur toi. Mmh. Tu ne veux pas te donner les chances de peut-être faire un autre métier dans un autre secteur, de gagner plus ou pas plus d'argent. Mais
après peut-être que ça tend à évoluer du fait que on sait maintenant qu'on va pas faire le même métier toute sa vie. Je trouve que on est plus en plus persuadé, notamment les nouvelles générations, du fait que faire le même job dans le même secteur, alors c'est très français aussi, il faut que tu aies 10 ans d'expérience dans le secteur cible, il faut être DRH dans le pharmaceutique depuis 10 ans parce qu'il faut que tu connaisses par cœur ta convention collective et tes populations. Ça, j'ai l'impression qu'on en sort un petit peu et qu'on se rend compte que c'est un peu utopique de se dire qu'on va garder des gens pendant 25-30 ans sur un même job avec les mêmes responsabilités, le même périmètre.
Oui, mais du coup, ce qu'on entend du point, finalement, c'est un peu un côté, une sorte de démagogie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et pendant des années, on a quand même fait reposer ici sur l'entreprise, notamment la conduite de mesures sur les seniors. Et donc, ma question va être, juridiquement, finalement, quand on regarde de manière un peu abrupto, quelles sont les obligations véritables qui pèsent sur les politiques à conduire sur les seniors? Qu'est-ce qu'il a? Parce que déjà, il n'y a pas vraiment d'âge, on a bien compris. Mais qu'est-ce qu'il y a comme obligation? S'il y en a, j'ai pas dit que tout devait passer par l'entreprise. J'ai juste qu'on en a plein la bouche des accords collectifs, mais finalement, il y a quoi dedans? Moi, j'ai l'impression, de mon avis, il va pas être très flatteur.
D'un point de vue strictement légal, du coup j'ai potassé parce que c'est pas forcément une question que je traitais beaucoup. Mais en fait, dans le code du travail, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de mesure aujourd'hui ciblée à destination des seniors. On avait des mesures envisagées dans le cadre de la réforme des retraites dont on a tous les entendu quotas, parler, oui. Le CDI senior, l'index senior. Mais
tu peux juste peut-être dire un mot sur l'index senior pour celles et ceux qui ne sauraient pas.
En fait, là aussi, quand on travaillait, on comprend que c'était un index qui permettait en fait sur la base de mesurer en fait différents critères sur l'emploi des seniors dans l'entreprise et les parcours et les mesures qui étaient mises en place pour les seniors dans l'entreprise. Donc il y avait à la fois quelle est ma population de seniors, combien j'ai de seniors chez moi, avec une répartition par sexe, et puis quels sont les types de mesures que je mets en place. Donc cet index devait mesurer ces deux choses-là, en sachant que bien évidemment, comme toute bonne réforme de ce gouvernement, elle renvoie énormément à des décrets, ce qui fait qu'on n'a que le principe dans la loi, et qu'après, la mise en œuvre concrète, on n'avait pas plus d'indications que ça. Mais donc, c'était un index qui allait fonctionner comme l'index égalité homme-femme, donc du coup, il permettait de vérifier qu'on atteignait un certain niveau minimal et que si ce niveau n'était pas atteint, il fallait mettre en place des mesures et que si on ne faisait pas, on avait un risque de pénalité financière toujours à hauteur de 1% de la masse salariale.
Mais ce qui est quand même surprenant, pour rester avant d'aller sur la seconde partie, c'est qu'on semble donc renvoyer beaucoup aux accords collectifs pour se substituer un peu à des politiques non établies par les individus ou non mises en place par les directions générales. Mais j'ai l'impression, un peu comme l'égalité homme-femme et toute une série sur la diversité, qu'il y a beaucoup d'engagements, des déclarations, parce qu'il y a la littérature finalement sur les seniors. Mais quand on creuse un peu l'arrière-boutique, on s'enorgueillit beaucoup d'accords collectifs dans notre pays. C'est on signe des accords. Les accords seniors, là, 2000, 3000, 5000, qui dit 10 000 là. Et quand on regarde sur l'efficacité des efficience, on se dit honnêtement ça n'a pas changé grand chose à part que désormais on a un peu des indicateurs, mais quand on creuse on s'aperçoit que finalement pour en faire quoi les statistiques sont quand même pas flatteuses.
Dans les accords. Alors, on met ce qu'on veut.
Du coup, ça aussi, je l'ai creusé. Parce que, alors, en réfléchissant sur le sujet, il me semble quand même, je suis assez acquise sur le fait que le meilleur véhicule juridique pour travailler sur l'employabilité et l'emploi des seniors dans l'entreprise, c'est bien l'accord collectif. Parce que pour moi, en fait, je pense que ce qui ressort de nos échanges, c'est que c'est une notion qui est très mouvante, qui dépend d'énormément de choses. Elle dépend de l'activité de l'entreprise. Est-ce que si une entreprise qui est naturellement jeune, parce qu'on utilise des technologies qui sont récentes, effectivement, est-ce que c'est... Donc, il y a la nature de l'activité, il y a l'ancienneté de l'entreprise, il y a où elle se situe aussi, parce que pour moi, la problématique ne se situe pas dans les mêmes termes, qu'on soit en fait dans une grande ville ou dans une province un peu reculée, où c'est plus compliqué. Et donc, du coup, je pense que l'outil qui est le plus utilisé aujourd'hui en entreprise pour traiter cette question de l'emploi des seniors, c'est les accords sur la gestion de l'emploi et des parcours professionnels.
Après, si c'est pas forcé, le problème, c'est si on force pas la main aux gens, comme dans l'égalité homme-femme, avec des quotas propres par entreprise. C'est juste que l'accord collectif, ça reste quand même un accord au bon vouloir.
Un accord de principe, c'est vrai. Et donc, l'idée, effectivement, dans la loi, c'était de rendre obligatoire la négociation sur la question des seniors aussi. Donc, alors, c'est pas jeté aux oubliettes. Hein. Normalement, il y a une négociation qui doit s'engager au niveau national entre partenaires sociaux sur la question spécifique des seniors. Mais je trouve qu'en tout cas, sur le principe, le recours à l'accord collectif est pour moi la façon la plus pertinente de traiter de façon efficace la question. Après, c'est sûr qu'on n'a pas de cadre aujourd'hui qui est contraint réellement. On a les grands principes légaux, qui est de maintenir l'employabilité des personnes, de limiter les risques de discrimination et autres. Mais c'est vrai qu'on a, c'est des principes qui s'appliquent de façon intergénérationnelle, c'est pas propre aux seniors. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes qui pèsent réellement sur les entreprises.
Puis les index, moi, j'y crois pas trop. Enfin, on avait parlé, du coup, comme pour l'égalité homme-femme. Mais c'est quelque chose qu'on peut quand même, pas trafiquer, mais en tout cas qu'on peut orienter, je trouve. Et que les sanctions financières, elles sont un peu loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du contrôle. Il paraît qu'il faut l'afficher sur son site internet. Je suis pas sûr du pourcentage d'entreprises qui le font vraiment sur leur index égalité hommes-femmes. Je pense que très peu sont les entreprises, à part les très grosses entreprises, qui peuvent le faire. Et même si on fait un accord collectif avec une obligation à partir d'un seuil, on va quand même gommer la plupart des PME ou des entreprises type start-up qui sont assez peu enclins recruter justement ces seniors-là.
Ouais, c'est un des points de faiblesse. Moi, je partage avec toi le fait. Je suis mesurée sur l'idée de l'index. Elle est pourtant, c'est une idée qui ressort dans tous les rapports sur le sujet. Hein. La NDRH, l'Institut Montaigne, ils en parlent tous, de l'index senior.
Donc, on est tranquille.
Ça plutôt pas mal. Moi.
Ah, mais c'est du déclaratif et je trouve que ça.
Mais est-ce que ça peut inciter des entreprises à réfléchir ou à changer?
Oui, à réfléchir.
En fait, c'est toujours ce qui est intéressant, c'est que, et on va aller à la formidable transition merveilleuse. on a voulu vouloir que. Je trouve qu'on on est les champions du monde dans ce pays pour faire les diagnostics et trouver des solutions, mais pas comprendre le pourquoi. C'est-à-dire que on est fort pour dire dans les constats, les seniors sont insuffisamment embauchés. Très bien. Du coup, on va y mettre des accords collectifs, mais il manque en fait le pourquoi au milieu. Et cette question-là, personne ne veut y répondre parce que c'est un peu sulfureux, c'est un peu polémique. Et tant que ce point du milieu n'est pas traité, tu peux y mettre les milliards d'accords collectifs. Si foncièrement, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Enfin, à un moment donné, sauf si derrière, effectivement, tu as des mesures qui sont des mesures obligatoires avec un certain nombre, soit d'amende, de pénalité, ce qui est toujours évidemment dommageable. Et pour la question, c'est comment on peut encourager finalement les entreprises. Et tu pourras, je pense, apporter aussi ton éclairage, toi sur la partie peut-être start-up, cet écosystème qui n'est quand même pas le plus représentatif du monde entier, et toi peut-être à contrario avec des 45 ans que tu peux voir, comment on peut encourager les entreprises à davantage valoriser les expertises. Quels sont les arguments qu'on pourrait leur démontrer une fois qu'on a encore dit qu'ils sont formidables, quoi. Manifestement, ça suffit, on a compris, ça fait 10 ans, ça marche pas. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Start-up, juste, et parenthèse tech aussi.
Ou
le
tech.
Milieu de la tech, globalement, le milieu du consulting, etc. Si t'es pas arrivé à un certain niveau de poste, généralement, c'est un blocage quelque part. Où il y a, je pense, cette idée de se dire, si t'es pas arrivé à un certain niveau de poste, à un certain âge, c'est que tes compétences valent peut-être moins qu'une personne qui fait déjà partie d'un CODIR ou à du management, ou à un niveau d'expertise très très important dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est encore mal vu, si je puis dire. Et donc, à la question de comment on essaye de valoriser ça, je pense que ça passe par de la pédagogie Mais malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, c'est encore vu comme finalement l'empêcheur de tourner en rond, celui qui va pas forcément fitter avec la culture de l'entreprise.
C'est le premier argument qui est cité.
Ouais,
hein.
C'est le premier argument. Et celui, effectivement, pour lequel il va falloir apprendre ces nouvelles technologies, finalement, d'un point de vue de compétence, où peut-être qu'il est plus à la traîne. Effectivement, on n'utilise plus forcément un fichier Excel. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle Monday, j'ai vu. Enfin, tu vois, de se dire, est-ce qu'il est à la page aussi d'un point de vue avancé technologique ? Bon, ça ne répond pas du tout à ta question sur le comment on fait pour favoriser.
Mais Amélie a trois idées très claires qu'elle a annoncées.
Trois, je ne sais pas, mais je peux en trouver facilement. Le côté technologique, alors tous les cadres ne se valent pas comme tous les jeunes ou moins jeunes ne se valent pas. C'est pas une question pour moi d'âge dans ce cas-là, c'est plus une question de mentalité. Donc on en vient à cet intérêt que chacun peut avoir à s'auto-former et à cultiver sa curiosité aussi tout au long de sa vie. Et ça, c'est quelque chose que je lutte parce que beaucoup de jeunes ne l'ont absolument pas.
Ouais, c'est clair, je suis d'accord.
À contrario, moi j'ai plein de seniors qui sont dans la tech et qui adorent ça, qui ont développé des business e-commerce, qui sont DG dans des startups, d'autres qui sont office manager dans des startups, qui sont les premiers ou premières à présenter des nouveaux produits, des nouveaux services. Si je prends typiquement ma petite TPE avec mes 6 salariés, quand je prenais des alternants et que je leur présentais mes outils, Slack, je connais pas, tel outil, je connais pas. Et c'était la vieille que je suis, parce que oui, je suis vieille, je suis senior, j'ai plus de 45 ans.
Non, impossible.
C'était moi qui leur apprenais du coup tous les outils un peu digitaux, ouais. Qui les mettaient en face d'une culture aussi un peu digitale qu'ils n'avaient pas nécessairement. Donc oui, ils sont beaucoup à être sur les réseaux sociaux, mais pas forcément à avoir la culture pour les utiliser. Et en fait, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de juste de culture, de maturité.
Mais toi, t'en es persuadée, mais c'est quand même ce qui colle un peu à la réputation. Et comment justement on fait pour que ça ne leur colle plus à la peau ? C'est parce que toi, tu t'as eu l'habitude de le pratiquer, t'as rencontré des profils différents. Enfin, il y a quelque part, tu es déjà ouverte à ce type de éveillée, si je puis dire.
Quand souvent je démarre un programme Boost Me Up avec les seniors, la première chose que je fais, c'est que je leur rentre dans l'art. Mais vraiment.
T'as des pouces du haut des escaliers. C'est un peu violent. C'est un peu violent, mais après, un peu mal.
Mais on leur rentre dedans en disant, les gars, à un moment donné, il faut vous réveiller, il faut sortir un peu de votre carcan habituel. Et en fait, on les met devant les échecs potentiels qu'ils vont avoir ou devant des réalités, devant une réflexion qu'ils ont. Moi, je me souviens d'une époque où j'avais une jeune alternante qui travaillait avec nous. Et quand elle les coachait pour la prise de parole en public, pour justement apprendre à pitcher, ce genre de choses, ils l'écoutaient pas et ils prêtaient pas attention à elle. Et je leur disais, les gars, si vous voulez qu'on vous respecte vis-à-vis de votre âge, respectez aussi mon équipe, c'est parce qu'elles ont 25 ou machin, qu'il faut pas les respecter. Et en fait, j'étais obligée de créer un choc pour leur dire non, ça marche pas comme ça. Si vous voulez qu'on vous respecte, si vous voulez trouver, à un moment donné, il faut vous entendre avec tout le monde et comprendre comment on peut créer un match ensemble et faire en sorte qu'on arrive à bosser.
Et c'est hyper intéressant parce que du coup, là, c'est de la pédagogie un peu inversée. Pas de la pédagogie en entreprise pour recruter, tu vois, tu pourrais former tes recruteurs pour aller plus vers des profils seniors ou tes managers pour les accueillir. Là, c'est vraiment aussi et je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je l'ai vu en recrutant des gens d'un certain âge dans la tech, c'est que parfois, il y a aussi un peu ce mépris en fait du jeune, il a rien à m'apprendre parce qu'il a 20 ans d'expérience de moins que moi. Et ça, c'est très mal vécu dans les équipes et ça peut être une façon de s'ostraciser encore plus que d'essayer de comprendre effectivement les nouvelles dynamiques de communication et les parcours différents des jeunes, si je puis dire.
C'est ce que tu disais à un moment donné, c'est que le problème, c'est que si on dit le pourquoi les seniors ne sont pas recrutés aujourd'hui, si on dit la vérité, c'est pas politiquement correct. Et
oui, mais
là
en fait,
aujourd'hui,
coup,
même si moi je milite sur l'emploi des seniors, le politiquement pas correct, c'est quand même d'avouer que il faut aussi que les seniors se remettent en question et acceptent certaines
choses. T'as les deux. Alors c'est vrai qu'il y avait le reverse mentoring qui avait connu une certaine hype pendant à peu près 4 mois environ, jusqu'à temps d'avoir un nouveau concept RH qui est survenu, certainement les MOOC ou les SPOC ou les trucs, on ne sait pas.
Ça fonctionne pas,
ça non plus. Donc il faut se mettre à la page pour le coup, parce qu'on est très très créatif. Mais ça a eu mais finalement c'est un peu retombé comme un soufflet. Je trouve que l'un des points que vous avez clairement dit, c'est le rapport aussi à la hiérarchie. C'est vrai qu'on prête historiquement une autorité à un âge en France, c'est clairement historique. L'un des points aussi, je trouve qu'il est plus compliqué, le cadre, que population évidemment que je connais un petit peu plus, tant qu'il est en poste, il sent un peu maître du monde parce qu'il est courtisé et qu'à un moment donné, on comprend pas bien pourquoi à un certain âge, on ne l'est plus. Et là, il y a une telle violence que souvent des gens qui se coupent de tout, un peu mécaniquement finalement, qui font leur job, qui partent, qui font une rupture, mais comme ils sont dans un bon âge, ils se repositionnent. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, il se passe pas grand chose. Et comme ils ont pas entendu dans les médias que c'était pas si facile qu'il fasse se repositionner, c'est quand même assez complexe. Mmh. Et l'une des difficultés aussi que j'avais pu voir, c'est que c'est quand on est quelqu'un d'une cinquantaine d'années, DAF, etc., il est plus facile de recruter quelqu'un de jeune parce qu'on va se dire les choses, il va moins remettre en cause sa légitimité. Et on est quand même sur des fonctions éminemment politiques aussi, et qu'on peut se raconter la messe quand on a 50 ans. On va avoir du mal à prendre quelqu'un qui a potentiellement le même âge que soi, à 53 ans, qui peut peut-être nous prendre un peu notre place dans 2-3 ans. Ça ne se dit pas, mais c'est comme aussi une réalité. On est, je sais pas comment c'est dans les autres pays, donc j'ai pas d'avis sur ça, vraiment. En France, il y a aussi ça, ce qui fait que c'est plus facile de prendre quelqu'un qu'on va vaguement tutorer, mais surtout qui est plus malléable. Et les seigneurs, et moi, j'ai aucun problème à dire qu'évidemment, à 41 ans, je suis moins malléable qu'à 20 ans. Enfin, c'est comme je suis moins élastique. Bon, j'ai jamais été une souplesse extraordinaire, hein. Vous allez me dire, l'exemple était peut-être pas bon. Enfin, quand j'étais bébé, parce que je pense que je prends pas beaucoup d'engagement, je savais à peu près toucher mes petits pieds avec mes petites mamans. Là, maintenant, le spectacle serait déjà moins beau à voir. Mais j'imagine bien que dans les années glissantes, ça va être... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi logique. On est moins malléable. Et l'une des critiques qui était faite, notamment dans l'environnement startup, c'est de dire les seniors viennent, mais quelque part aussi pour copier-coller leurs procédures, pour copier-coller ce qu'ils ont fait ailleurs. Et ils se disent, mais j'étais embauché pour ça. Or, les startups aussi, dans certains cas, se disent, mais en fait, j'ai pas du tout envie parce qu'il faut être un peu agile ou faut proposer autre chose et j'ai pas forcément envie de quelqu'un qui va arriver. Et en même temps, ça sécurise. Donc, espèce de soupape de décompression, elle n'est pas forcément faite. Et on voit bien, malgré le temps, je trouve qu'il y a toujours aussi peu de porosité, passé les événements, entre start-up et groupe, où il y a déjà un peu plus senior. Oui, on se tape dans la main, c'est formidable, mais les start-up restent aux start-up, les jeunes boîtes, je mets les PME un peu à part, et les grands groupes, c'est bien pour vendre, mais passé ça, il n'y a quand même pas beaucoup de start-up qui accueillent des seniors. Et alors, je sais qu'il existe des incubateurs parfois dans les grands groupes, mais qu'est-ce que ça donne in fine ? Je ne suis pas sûr que ça donne... Donc, on a quand même un problème de compréhension et le deuxième critère aussi évidemment c'est la rémunération, on n'a pas parlé, mais évidemment qu'un senior mécaniquement de cadre ça coûte généralement plus cher et on en revient à pourquoi prendrais-je quelqu'un qu'à 50 ans alors que quelqu'un qui en a peut-être 38 ou 39 va faire aussi bien le job mais il va me coûter 30 à 40%, et si on n'est pas capable de l'entendre on va jamais traiter le sujet.
Bah, le problème c'est peut-être justement la mécanique de la rémunération. Tu vas en Suède pour un poste bien précis, t'as un salaire qui est donné quel que soit ton âge, que t'aies 25 ou 45 ans, tu
pas
viens
qu'en Suède,
comme,
dans beaucoup de pays ouais, c'est comme
tu
ça.
Viens comme DAF, bah, t'es payé pour faire une mission bien précise, que t'aies beaucoup plus de compétences c'est cool, mais t'es pas payé pour toutes ces compétences. Et en fait, le problème, comme tu le disais à mon nom, c'est qu'en France, bah, on a la gestion de la carrière qui est censée toujours être florissante, grandissante.
Exactement.
Donc, on doit monter. Sauf que, bah, en fait, non, à un moment donné, si je recrute quelqu'un pour faire une mission, je dois pas regarder son âge. Je dois avoir établi le salaire en fonction de la mission et pas en fonction de l'âge. Donc, en théorie, ça, c'est aussi quelque chose qu'on devrait changer en France.
C'est intéressant. Moi, c'est la première fois que j'entends ce point de vue, là, tu vois, de rémunération qui peut être adaptée en fonction du poste et non pas de l'expérience.
Pays,
et ça, ouais, mais ce serait compliqué, je pense, à faire le
Ah bah là, c'est une révolution.
Switch. Ah oui,
là, ça en fait, tout le monde qui est dans la rue. Hein.
Quand on fait notamment les analyses statistiques, souvent on prend les exemples de ce qui se passe aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, et on se dit, ah bah alors, taux de chômage est moindre. Mais il est moindre parce que les rémunérations baissent de manière drastique. C'est qu'en France, on est habitué, comme l'a dit Amélie, à avoir des évolutions, même si c'est moins. Et quand ils te disent, oui, mais je suis prêt à faire des concessions, mais en fait, là-bas, c'est pas des concessions qu'ils font. C'est-à-dire que t'étais à 140 000, on te propose un poste à 70, tu prends le poste à 70. Alors, mais t'es en poste. Bah, du monde, ça, un Français, il va dire, ah, mais non, mais ça m'intéresse pas. Oui, mais c'est comme ça qu'ils atteignent leur stat. Faut pas se faire d'illusions. Or, en France, pour plein de régimes aussi, d'allocations, etc., bon, on voit que les mesures visent aussi ça, hein, clairement. Bah, faire une concession, déjà, c'est inaudible. Il y a beaucoup de cabinets d'outplacement, je suis désolé, qui te disent, n'acceptez pas un poste en dessous de vos prétentions, vous dévalorisez. Bah, ça, ces conseils-là, moi, ils ont complètement éclaté. Enfin, ça marchait peut-être il y a 30 ans.
Mais les gens,
mais désormais, non,
ils font
quoi.
Dans
je
les
suis désolé.
Pays parce que les gens adaptent aussi leur niveau de vie. On va
mais parce que tu remontes très vite.
Oui, oui.
C'est ça le point, c'est qu'en fait, t'acceptes de faire un retour en arrière. Bon, déjà, t'as besoin d'un poste, parce que là-bas, t'as pas d'allocation chômage. Donc, à un moment donné, si je propose entre passer à 140 à 70 ou plus rien, bah, tu prends le 70. Et là-bas, t'as une capacité aussi de remonter plus vite que nous. Tu sais très bien qu'une fois que tu remets dans le wagon, bah, t'es reparti.
C'est ça
le problème.
Vite, hein.
C'est que ouais. Tu descends, mais c'est pour ça que j'aime bien qu'on compare, mais on peut pas prendre
que ce qu'on veut non plus. Sûr, c'est ça qui est un peu gênant pour traiter du sujet des seniors, si vraiment c'est un sujet. Bah, de mon point de vue, il faut aussi le prendre sous un angle qui est un peu plus complexe et de voir ce qui fonctionne aussi, aussi à l'étranger. Et pendant un moment, oui, il y en avait beaucoup qui faisaient des négociations de transac, qui faisaient des chèques, parce que c'est, et qui se retrouvent au bout d'un moment au chômage et qui se rendent compte, bah, les années avançant, qu'ils seront dans des situations. Et le pire, ce qui est le plus triste, c'est que les cadres osent encore moins se plaindre. C'est-à-dire que voir un ouvrier ou un employé en situation délicate, tout le monde a un stock compassionnel et plein de commisération pour lui ou elle. Un cadre, et là, désolé, mais un homme encore plus, on va dire, mais comment il a pu être directeur et pleurer, mais il a fait quoi de son argent? Donc, c'est des gens en plus qui ne parleront pas, qui vont se mettre dans des situations extrêmement compliquées par honte, finalement. Mmh. Donc, ça aussi, c'est pas dit parce qu'il faut faire des jolies histoires sur les cadres. Bah, désolé, tous les cadres.
Il faut pas régresser, quoi.
Il faut pas régresser.
En France, tu peux pas régresser. Moi, typiquement, j'avais connu une dame qui était directrice des achats. Et quand elle avait rencontré un cabinet de recrutement, elle lui avait expliqué que si la mission était intéressante, elle était prête à baisser un peu sa rémunération parce qu'aujourd'hui, elle avait passé les 45 ans. C'était plus vraiment la rémunération qui l'intéressait, c'était plus le challenge. Et donc, même dans une plus petite entreprise, elle sortait de chez Accor, elle était prête à revoir sa rémunération. Et le cabinet l'a tout de suite stoppé en disant, mais il est hors de question, vous devez évoluer vers le haut. Et le cabinet, limite, lui a dit, non, votre prochain salaire, ça doit être ça, votre prochain job, ça doit être ça.
Parce que c'est bizarre de se dire, pourquoi elle accepterait 34 de moins? Comment elle est partie de son ancienne entreprise. Il y a un truc un peu de suspicion vis-à-vis d'une régression potentielle de la personne sur un salaire, alors que je te rejoins, au bout d'un moment, il ne faut pas rester fixé là-dessus, parce qu'il y a des gens très malheureux qui restent dans des entreprises, et moi j'en ai déjà vu par le passé, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un salaire compétitif ou en tout cas à la hauteur de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais tu te dis, tu te rends malade. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de burn-out. Peut-être que c'est lié aussi, mais tu te rends malade au point de plus pouvoir aller au travail pour 5K ou 10K. Tu te dis, franchement, est-ce que ça en vaut la chandelle, tu vois? Parce que le bien-être au travail, finalement, ou en tout cas de se sentir, de pouvoir accomplir son travail en sérénité et de la meilleure des façons, pour moi, ça devrait être quand même un critère numéro 1 par rapport à ces considérations d'argent. Mais
on revient sur le « on ne se questionne pas et on ne s'écoute pas.
Mmh. Ouais, je suis d'accord.
Mais du coup, une fois qu'on a dit tout ça, alors c'est vrai que juste pour revenir sur une petite observation sur la question du management, effectivement des seniors dans l'entreprise. Pour préparer ce podcast, j'avais regardé un certain nombre d'accords et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y en a aucun, ou plutôt un seul sur 18 qui s'est posé la question du management des seniors. Alors que je pense que c'est quand même un des éléments clés, entre autres, quand on accepte de recruter le senior pour que le recrutement fonctionne, aussi former le manager qui va travailler avec lui, parce que souvent, effectivement, il est plus jeune que le senior qu'il recrute. Mmh. Et je trouve que ça a du sens et je trouve un peu dommage, effectivement, de voir ça dans un seul désaccord sur la question. C'était juste une observation en passant. Moi, la question que je me pose par rapport à ce que tu disais, Amélie, je suis d'accord avec les constats qui sont faits sur le fait que les seniors doivent revoir leur approche eux-mêmes du marché du travail et de leur repositionnement. Mais du coup, quand tu les prépares, comment est-ce qu'un senior qui finalement, vis-à-vis d'un plus jeune de 40 ans, on est à 55, il doit se battre contre un autre candidat de 40 ans, comment il réussit à s'imposer? Parce que finalement, entre 40 et 55 ans, la compétence, la même, quoi. L'expérience ne fait même pas la différence. Donc du coup, comment est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent sortir du lot?
Comment ils sortent du lot? Moi, je utilise beaucoup de techniques de marketing ou de gross marketing. Donc en fait, je les prépare comme si c'était des propres commerciaux. Donc on revoit, alors hormis le CV, la lettre de motivation pour changer des méthodes un peu à l'ancienne. Et en fait, je les rajeunis un petit peu dans leur manière. Peur.
Sans chirurgie esthétique, on est d'accord. C'est
pas
ça que tu veux dire.
Sans chirurgie esthétique, promis, je n'ai pas de partenariat avec un institut. Mais je les aide en fait à se rajeunir, entre guillemets, à se valoriser, à mettre des mots positifs sur eux, sur leur parcours et à mettre l'accent sur ce qui est vraiment essentiel. Parce que souvent, quand on est senior, on a forcément beaucoup d'expérience, donc on a beaucoup de choses à raconter. Et à chaque fois, je leur dis, c'est cool, mais ça, je m'en fous. Donne-moi un élément qui est essentiel dans ta carrière, qui va vraiment intéresser l'entreprise qui va te recruter. Et en fait, je les aide à essayer de synthétiser et à sortir le meilleur. Et en fait, derrière, je fais en sorte qu'ils soient présentés aux bonnes personnes. Alors souvent, je leur dis, évitez les RH, ils servent à rien. Je suis désolée.
Voilà. Waouh.
J'adore les RH, c'est tout ce que je déteste.
De la soirée.
Mais mais non, parce que je leur dis, les RH, ils sont déjà submergés de plein de candidatures.
C'est pas ce que tu dis du tout. Alors, on n'y croit pas tout ce qu'on a.
Et en fait,
c'est gentil de ramer.
Selon le poste que vous visez, c'est pas le RH qu'il faut aller voir, c'est carrément le directeur général, voire le patron, pour aller lui proposer quelque chose. Donc, sauf si ça dépend du poste, bien sûr, mais les trois quarts du temps, je leur dis, vous passez à côté.
Mais est-ce que tu remarques aussi, moi j'ai remarqué, quand quelqu'un est en recherche d'emploi, notamment sur un positionnement senior depuis quelques mois, voire des années, tu disais entre 1 et 3 ans, ce qui est quand même énorme, il y a aussi une perte de confiance qui vient avec et une dévalorisation en entretien. Ouais. Et moi, j'ai souvent remarqué ça aussi, c'est que la personne, il y a un peu l'énergie du désespoir, quoi. Tu vois, où il va essayer de te vendre de père et mère pour pouvoir être embauché. Et c'est bête, mais dans un entretien, tu le ressens. Et du coup, tu vas être frileux, alors que pour autant, il est peut-être tout aussi compétent. Donc, comment on gère cette partie-là? Est-ce que c'est du mentoring? Est-ce que c'est du coaching?
Il y a beaucoup de coaching. Souvent, quand ils font le programme en démarrage, je leur dis de faire l'exercice des 100 réalisations. C'est-à-dire qu'ils doivent faire la liste des 100 choses qu'ils ont réussies, pour lesquelles ils sont fiers. Et à chaque fois, c'est « Oh, mais madame, c'est beaucoup trop !» Je dis « Non, c'est bon, vu ton âge, ça en fait deux par an, c'est jouable !» Donc, et l'idée, et en fait, on pourrait tous faire l'exercice, même si on a 25 ans ou 55 ans, faire la liste de toutes ces choses. Et en fait, je leur dis derrière, vous allez raconter une histoire. Pourquoi c'est quelque chose dont vous pouvez être fier et en quoi ça va toujours intéresser l'entreprise. Moi, je fais toujours le lien avec le besoin, le business de l'entreprise, c'est OK, mais ce que tu sais faire, pourquoi ça va intéresser la boîte? Tout ce que tu sais faire ne va pas intéresser la boîte, donc sors-moi les trois éléments qui sont vraiment des pépites pour le futur employeur.
Et est-ce que l'une des alternatives possibles, du coup, parce que là, on en parle beaucoup, évidemment, parce que j'entends déjà les auditeurs nous dire, mais là, vous parlez des salariés, c'est-à-dire ceux qui veulent évidemment revenir à un poste de salarié. Est-ce que l'une des alternatives qu'on va sentir peut-être dans les mois et années à venir, ce sont des personnes plus seniors qui disent, mais finalement 2, 3, 4 jours par semaine, pour moi c'est OK, ça me va très bien, je sais que derrière ça sera un mode de facturation, enfin voilà, l'entreprise est peut-être plus adaptée parce que justement les coûts de structure ne sont pas les mêmes aussi, et ça lui va bien de donner peut-être plus ta chance, qu'on a quand même un code du travail inverse, mais enfin qui est quand même assez raide en France, c'est vrai, comme ça. Donc est-ce que c'est pas finalement un moyen de penser un peu le 21e siècle avec des organisations qui sont peut-être plus petites au sens matriciel, mais qui vont pouvoir s'appuyer sur des expertises complémentaires de gens cette fois-ci plus capés, plus expérimentés, avec un rapport à l'entreprise aussi, parce qu'on sait que quand on est salarié et singulièrement des emplois de cadre, je suis désolé, mais le rôle politique prend tellement une part prédominante que parfois on n'ose pas et on se dit, bah oui, mais ça je le savais, mais j'ai pas... Que quand on est un peu extérieur, on peut avoir plus d'audace et à ce jeu-là, on peut être meilleur finalement. Est-ce que ça peut pas être des possibilités ou des choses qu'on pourrait sentir poindre, c'est-à-dire un peu moins de salariat et un peu plus d'indépendant? Je sais que notre droit du travail est quand même un peu pénible, faut dire ce qu'il y a, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à imaginer aussi au 21e siècle?
Très probablement, parce qu'en fait, la question, on se la pose depuis un petit moment maintenant, notamment avec les travailleurs des plateformes, en fait, parce qu'on a une évolution, en fait, de l'envie des gens en France d'avoir plus d'autonomie dans la façon de travailler dans un contexte légal qui ne laisse pas une telle autonomie. Donc, on se pose la question aujourd'hui de est-ce qu'il ne faut pas justement casser un petit peu le code du bon vieux CDI qui finalement un peu qui est le Saint Graal et qui conditionne quand même beaucoup la vie sociale des gens. Je veux dire, aujourd'hui, si tu veux un emprunt, si tu veux un appart,
complètement.
C'est même le CDI qui va t'ouvrir la porte. Hein. Donc du coup, on se pose la question de mettre en place effectivement des structures qui soient plus souples pour ça. Alors on en... Pour l'instant, il n'y a pas d'avancée concrète sur le sujet, mais au-delà effectivement dans la réflexion en fait sur ces solutions-là, on aborde à la fois la question du cadre légal du travail et puis aussi, est-ce qu'on met pas en place des systèmes solidaires pour permettre aux gens qui sont dans un travail indépendant d'avoir une caution pour obtenir un emprunt, d'avoir une caution pour obtenir un appartement. Donc du coup, c'est vrai que je pense que c'est pas alors. Moi, je suis assez convaincue qu'effectivement, l'indépendance peut être une solution pour plein de salariés, mais notamment les travailleurs seniors. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, le cadre légal n'est pas...
Je crois qu'il faut 3 ans pour pouvoir solliciter un emprunt pour une maison dans le cadre de l'indépendance. C'est quand même fou.
Quand tu es chef d'entreprise, il faut 3 bilans.
Ouais, c'est ça.
Et si possible, positif, les bilans.
Ouais, c'est vrai que ça contre les seniors, c'est vrai que je pense que c'est peut-être un petit peu moins embêtant parce que normalement, à ce stade-là de ta vie, t'as acheté ta maison, t'as peut-être plus ces sujets-là, si tu veux.
Non, mais tu peux devenir aidant, donc du coup, t'as aussi.
Mais t'as toujours les sujets.
L'enfant, l'ado qui revient.
enfin, oui, et puis tu as des problèmes de santé, donc tu as quand même besoin d'une couverture frais de santé. Enfin voilà, tout ça est quand même étroitement conditionné à une relation de salariat. Et en dehors du CDI et du contrat de travail en général, en fait, point de salut. Donc c'est vrai que c'est...
Et puis moi, j'ai le sentiment que être indépendant, c'est bien, mais c'est un mode qui convient pas à tout le monde. Si certains le font par défaut, peut-être que ça peut être préjudiciable. Et en plus, on a de ce fait un peu de plus en plus d'indépendants, et pour tirer son épingle du jeu, c'est soit le réseau, soit les compétences qui vont jouer. Mais moi, j'en vois énormément aussi des indépendants ou des micro-sociétés qui se lancent, et du coup, nous, en tant qu'entreprise, quand on doit faire appel à ce type de profil, oui, c'est rassurant d'avoir des seniors sur des profils indépendants, mais on en a beaucoup plus qu'avant aussi. Donc, plus qu'avant, dit aussi potentiellement de gens qui se retrouvent sur le carreau et qui ne vivent pas d'un job en indépendant. Ou alors qui en vivent peut-être 2 jours par semaine, mais c'est pas suffisant pour continuer à
oui,
s'alimenter.
Oui, l'idée c'était de dire, parce que c'est très exact, il y en a certains qui peuvent dire à 52, moi revenir dans une boîte, franchement refaire des entretiens, c'est bon quoi, j'ai pas passé ma vie à. Donc je trouvais que ça peut être un mode alternatif. J'ai pas dit, on sait qu'on entend parfois des RH, DAF, directeur RSE à temps partagé. Je sais pas le niveau, la taille. Si c'est comme le marché de la chasse de tête, c'est minuscule, on est tranquille. Donc on est d'accord. Mais je trouve que ça peut être peut-être un moyen,
non, mais
peut-être demain, d'avoir un codir qui dira, mais mon codir, en fait, ils sont tous indépendants. Et ça pose pas de problème. Parce qu'ils sont hyper fidèles. Et je sais que le gros du travail dirait, non, ça va pas le faire, j'en ai bien conscience. Mais finalement, si j'ai mon DRH, mon DA, qui travaille 4 jours par semaine et que la boîte, elle tourne, est-ce que c'est un problème? C'est,
bon, en Belgique, ça se fait beaucoup.
C'est
hein,
pour ça que je me dis, est-ce que c'est un problème? Ça,
moi,
je
ça
pense
se fait énormément,
pas
et en France, problème. Ça se fait quand même déjà depuis un paquet de temps. Il y a eu beaucoup de seniors qui sont sortis des grands groupes, voulus ou pas, voilà. En tout cas bien accompagnés pour sortir, et qui où l'entreprise leur a dit bah remettez-vous en auto-entrepreneur et on vous reprend en freelance.
Oui, mais et du coup est-ce que c'est ce que je veux dire c'est que j'entends, mais est-ce que c'est finalement une fois qu'on a poussé le fait de dire si la boîte est pas cool ou qu'un jugement de valeur, est-ce que ça peut pas être un moyen complémentaire parce qu'on sait que les deux point bloquant, hein. C'est un, la plus difficile intégration pour plein de raisons dont on a parlé dans les entreprises. C'est en tout cas ce que les startups tendances, mais bon, les entreprises disent la même chose. Et deux, la rémunération, puisqu'en France, on a et le salaire et les cotisations sociales et qu'on arrête de se voiler la face. On sait qu'on est le pays qui prélève le plus d'impôts et de taxes au monde. Donc on peut se tirer la bourre, je ne sais plus quel pays, mais enfin globalement, c'est ça. Est-ce que l'un des moyens pour. Surtout quand maintenant la réforme sur la retraite, on va quand même partir à 64 ans. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne garderont pas les salariés à 64 ans. Donc, est-ce que ça peut pas être un moyen complémentaire? J'ai pas dit de se substituer à, mais c'est bien, comme dire un juriste, c'est pas alternatif, c'est cumulatif. mais est-ce que ça peut pas être un moyen finalement de se dire, bah, on va quand même travailler évidemment dans les politiques RH internes, mais ne nous privons pas si pour la PME ou le TI ou le grand groupe ou la start-up, ça peut quand même d'embaucher des gens qui de toute façon n'auraient pas été vus de le faire. Je me dis, ça peut quand même être...
C'est une solution qui est déjà utilisée depuis un paquet de temps.
Okay.
Ça peut être intéressant, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui va convenir à tout le monde.
Bien sûr.
Jeune ou pas jeune, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'il faut être son propre commercial, son propre comptable, son propre RH, son propre tout ce qu'on veut. Et donc ça peut être aussi très stressant et beaucoup de profils seniors n'ont pas du tout envie de ça. Et après, c'est toujours la même chose, c'est le temps de le mettre en place. C'est-à-dire que même si là, on part du principe que c'est une bonne idée, qu'on va peut-être faciliter l'accès à des crédits, à des prêts, si on est indépendant, le problème, c'est est-ce que les gens sont prêts à ça et ont envie de ça. Donc, c'est toujours le temps pour arriver à le mettre en pratique et le mettre en place.
Oui.
Là, il faut attendre 10
mais
ans.
Mais on n'aura quelque part pas le choix, puisque là, la population vieillissante va continuer à s'accélérer. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on va se retrouver avec une pénurie de talents. On en parle beaucoup de cette pénurie de talents en question. Mais comment on peut aussi... Alors, je t'entends sur l'entreprise ne peut pas tout et l'État ne peut pas tout. On en parlait dans un épisode sur la GPEC notamment. Mais comment on fait pour accompagner justement cette capacité à transférer des compétences ou en tout cas à se mettre à niveau par rapport à un environnement qui est ultra changeant quand même globalement et réussir justement à réembarquer ces seniors, pas devoir les passer sous un mode contractuel qui est différent. Pour moi, c'est vraiment pas ça qui devrait driver le choix de l'indépendance ou pas de l'indépendance. Je pense que c'est vraiment une question de mentalité pour le coup. Et comment on fait pour accompagner ceux qui souhaitent rester en entreprise, j'aurais jamais envie de monter une boîte et je suis pas sûre d'avoir très envie d'être freelance un jour dans ma vie. Mais du coup, quelles sont les options options pour réussir finalement, entreprise, état ou soi-même, à monter ce niveau de compétence, quoi.
Tu peux les faire changer de rôle au sein de l'entreprise. T'as beaucoup de grands groupes qui ont fait ça, où à un moment donné, le salarié reste salarié dans la boîte, mais il n'est plus le directeur truc-muche, ou il n'est plus le manager machin chose.
Tu me les présenteras. Voilà, elle doit être portion congrue, ces entreprises. Voilà.
Notamment IBM, qui a créé des cellules d'experts en interne, et c'est uniquement les profils seniors. Et en fait, ils interviennent dès qu'il y a besoin dans les autres départements pour aller aider. Ils mettent en place des process, et en fait, ces gens-là qui sortent de leur rôle habituel pour en prendre un autre. Il y a d'autres entreprises qui proposent à des seniors de devenir formateurs en interne.
Formateur, oui, ça, c'est le grand truc, effectivement. Ça permet un peu de valoriser des expertises ou des gens. Et en même temps, on n'est pas dans des rôles ascenseurs. Enfin, j'entends au niveau d'évolution hiérarchique, disons qu'on sort un peu de ce prisme-là, donc ça peut...
Ça peut être notamment pour des emplois non cadres, qui sont dans des usines ou quoi que ce soit, qui à un moment donné vont plus aussi humainement pouvoir faire leur métier, et ben ils peuvent peut-être l'enseigner si l'entreprise crée son propre CFA ou forme
interne. Là, on parle de groupe d'une taille gargantuelle, c'est-à-dire que imaginez un CFA ou un institut, effectivement, moi j'ai fait deux boîtes où il y avait ça, mais enfin, c'est le SBF 120, quoi. On va dire les choses. Oui, oui. Alors, Amélie ne travaille qu'avec le SBF 120. Non. Grande nouvelle. Désolé pour ceux qui nous écoutent. On va quand même continuer cet épisode, mais difficilement.
Il y a des choses qui existent. Non, des bien choses sûr, qui sont bien sûr. Non, mais et après, tu as des organismes de formation lambda, que ce soit le Greta, l'AFPA, l'IFOCOP, peu importe, ou lequel un profil senior peut venir pour devenir formateur.
Non, mais tout ce qui est formation, il y a eu des écoles, effectivement, qui ont été mises en place d'expertise ou de pôles d'experts qui ont toujours plutôt été bien faites. Mais la question, en fait, en filigrane, c'est de dire, OK, mais la question, c'est, est-ce qu'on demain va recruter un DAF, est-ce qu'on va recruter un contrôleur de gestion qu'à 50 ans?
Moi, j'en positionne plein, d'experts de 50 ans.
Foncièrement, de tendance, le point, il est quand même peu étudié. Pour rebondir sur ce que tu disais, déjà, on peut faire évoluer les gens à s'autonomiser un petit peu plus, à condition déjà de le dire. Moi, je suis toujours frappé de voir que dans les échanges, dans les colloques, on assiste notamment à la NDRH, mais enfin... Moi, c'est vraiment un enfonçage de porte ouverte, quoi. Enfin, je veux dire, on dit exactement, et on se contente de dire, on a fait les accords collectifs. Et donc, on a fait les accords collectifs, donc le job est fait. Mais le job, il n'est pas fait. Enfin, navré. Et en off, quand tu échanges avec les RH, tu te dis, non, on pourrait faire tout un pan sur la transfo digitale, on peut en parler. Entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un décalage. Mais ne pas dire les choses, ça ne fait pas qu'elles n'existent pas. Et donc, si on veut aussi que les gens s'autonomisent, pourquoi veux-tu te prendre en main si on te dit que le marché pénurie de talents? Pourquoi? Ne pas dire les choses fait que les gens en réalité ne se questionnent pas. Si on te dit que dans toutes les branches ça recrute, qu'il y a pénurie de talent, t'as vu, ça a été, excusez-moi, un dégueulis depuis un an dans les médias de dire on recrute. Mais quand tu poses la question à un CEO qui a fait notamment un podcast, je sais pas si tu t'en souviens, je ne dirai pas son nom, est-ce que vous recrutez des seniors? Ben voilà, les gouttelettes tombaient sur le front. C'était beau à voir. On aurait dit un Rembrandt.
J'ai l'impression que les startups, parce qu'on parle beaucoup des seniors, mais on parle aussi beaucoup de la nouvelle génération qui veut plus de flexibilité, qui veut du télétravail, qui veut aussi potentiellement plus papillonner sur différents types de postes, qui demandent plus vite de la mobilité interne, qui changent plus vite de job, etc. Moi, j'ai remarqué aussi que les startups ou même les métiers de la tech en ont un peu ras-le-bol parfois d'avoir des profils juniors ou en tout cas, on va dire, du 25-35 ans qui sont des profils qui bougent beaucoup, parfois des profils de diva sur, notamment sur des parties de développement, etc. et qui reviennent un peu de ce truc de la jeunesse à tout prix et qui vont recruter aussi des seniors, alors pour des raisons qui ne sont pas forcément des compétences. Non, mais des cinquantenaires.
Ah oui, des quinquas.
Des quinquas, comme on dit, pour se dire, OK, en fait, j'en ai besoin. J'ai besoin de senioriser la boîte si je veux scaler. Si je veux grandir, à un moment, je pourrais pas faire que ça avec des gens qui ont 25-35 ans parce qu'il manque finalement. Alors, c'est pas forcément de compétences en soi, mais c'est du recul et du recul de j'ai été dans une autre boîte. Parce que le problème des startups, c'est quand t'as des gens qui sortent d'école, qui ont vécu que ce mode de startup et qui n'ont pas le recul de se dire... Bah, finalement, l'herbe est pas toujours plus verte ailleurs. Et ce que tu demandes sempiternellement en flexibilité du travail, en nouveaux avantages en termes de rémunération, en capacité à bouger tous les 6 mois de poste, en fait, c'est peut-être pas la vraie vie. Il y a plein de boîtes qui le font pas. Et ça, pour le coup, les seniors ont le recul de se dire, en fait, là, on est vachement bien ici. Parce qu'on a quand même de la flexibilité, quand même ça, quand même ci, quand même cela, parce que les gens ont vécu d'autres choses aussi.
Et je te rejoins sur la partie scale-up, où effectivement, on avait, à un moment donné, j'avais fait une vidéo avec une DRH dans une scale-up et qui expliquait qu'elle avait besoin de profils seniors pour poser les équipes en place, pour les rassurer, pour les encadrer, et que c'était vraiment ce qu'elle recherchait le plus.
Après, on va pas se leurrer, hein, c'est pas la majorité, mais peut-être que...
C'est touche par touche, quoi.
Oui, c'est
chaque
ça.
Effort, pas chaque
c'est,
effort.
C'est un
on,
peu ça.
On va juste peut-être prendre là, avant d'arriver aux questions, un peu les clairs questions.
Hein. Peut-être
une dernière question pour parler un peu du tutorat qui avait notamment été un peu dans les accords collectifs, qui faisait partie des plans d'action. Il y avait plein des choses très ambitieuses. Hein, les non-discrimination, vraiment, on était complètement dingue. L'entretien de mi-carrière, on était à fond. Et il y avait notamment le tutorat. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu une marotte? Et un peu en pratique, est-ce que toi, tu as un avis sur tutorat inversé? De reverse mentoring. Maintenant, on a 10 ans de recul, parce qu'on fait des accords, mais ça pourrait être foufou un jour d'en faire les bilans. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense, amis politiques?
Ben, le tutorat, j'ai l'impression que ça n'a pas bien marché. Effectivement, on a eu une obligation à une époque d'étudier cette possibilité-là. Je crois que ça a été même ressorti. C'était dans le code du travail, mais en fait, ça ne l'est plus maintenant. C'est une chose qu'on voit toujours encore, hein, beaucoup dans les accords. Mais dans les faits, en fait, j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien parce que je pense que c'est parfois une question d'activité. Il n'y a pas de transfert de compétences, en fait, s'il n'y a pas vraiment de... S'il y a un décalage tel en termes de technologie que finalement, le senior n'a peut-être plus forcément grand-chose à apprendre.
Puis il faut laisser du temps aussi.
Voilà. Et puis, je pense qu'il y a un décalage aussi, une rupture générationnelle hein, qui se fait que effectivement tu vas se retrouver avec le senior et le jeune qui n'arrive pas à se parler en fait. Donc c'est une piste, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui pour moi n'est pas la solution miracle et peut fonctionner avec ça suppose que quelqu'un soit là pour réceptionner le savoir et quelqu'un qui soit pédagogue en fait. Et tout le monde n'est pas pédagogue. Ça, c'est pas parce que t'es senior que t'es pédagogue, c'est parce que t'es sachant que t'es pédagogue. Donc du coup, le tutorat, ben, un peu pchit, quoi. Enfin, c'était pas...
Pas mieux. Pchit, total.
Voilà.
Mais et comme t'as dit, hein, la pédagogie. S'il n'y a pas de pédagogie, s'il n'y a pas d'envie, si tu obliges les gens à transmettre, bon, bah, y a pas de raison, ça fonctionnera pas.
Ah, mais on a l'impression qu'en fait, le senior est une masse informe et que tout le monde est destiné aux mêmes choses.
Il y en a plein qui n'ont pas envie, qui ne sont pas pédagogues et qui n'ont aucune envie de transmettre. Et c'est vrai que souvent, quand on leur dit, bah oui, mais justement, en fin de carrière, tu vas pouvoir transmettre, ils disent, mais foutez-nous la paix avec ça.
Je te dis que tu vas transmettre. Tu vas transmettre ton savoir ou pas?
Mais je peux les comprendre. C'est-à-dire comme si tu étais juste un cerveau qui voulait revomir tout ce que tu connaissais.
Eh bien, c'est une très belle transition.
Pas sur le cerveau qui vomit. Alors,
vous êtes prêtes? Parce que vous allez voir, ce soir, c'est des questions à la fois ambitieuses et en même temps piquantes.
Alors, la question qui me brûle les lèvres est la suivante. Quel livre vous recommanderiez à un RH? L'ultime bouquin. Genre l'art de la guerre.
Machiavel.
Le Marquis.
Non, ou pas? Pas du tout. Enfin, moi, j'en ai un en tête, mais c'est un pavé.
Vas-y.
Mais pourquoi pas?
C'est le code du travail.
Ouais, c'est pas une mauvaise idée.
Non, notamment la page 487, elle est vachement bien.
Non, bon, c'est un livre qui est vraiment très, très... Enfin, qui est de Christian Le Goff, je crois. C'est sur l'histoire du droit du travail, mais qui s'intitule « Du murmure à la parole ». Du silence à la parole. Donc du coup, c'est une histoire en fait de l'évolution des pratiques de travail l'ère industrielle à notre ère moderne. Il y a une version, mais c'est un pavé.
Et est-ce qu'on comprend pourquoi notre droit du travail est si alambiqué ou pas?
Oui.
Ça m'intéresse.
Ah oui, ça explique. Alors ça explique les grands tournants, ça explique pourquoi on a fait certaines choses, ça explique aussi pourquoi ça a pris autant de temps parce que franchement, c'est extrêmement éclairant. Donc voilà, je trouve qu'il peut de temps en temps, il aurait pu l'écrire de façon plus simple.
Plus synthétique.
Mais synthétique indéniablement, mais vraiment, pour le coup, je le recommande, mais pas forcément qu'à un DRH, hein, à toute personne qui s'intéresse un petit peu à l'évolution du travail et pourquoi ça fonctionne comme ça en France.
Amélie? Merci, je ne connaissais pas du tout.
Du coup, moi, je vais plutôt promouvoir le bouquin qui sortira peut-être au mois de mars l'année prochaine.
Ça va être le sien.
Le mien,
oh,
effectivement.
Je recommande un bouquin qui n'existe pas au moment où je vous parle.
Mais dans l'ordinateur. Il y a déjà 180 pages décrites. Il en reste plus beaucoup à finir.
Et qui s'appelle
On ne s'est pas encore mis d'accord sur le nom, mais c'est justement sur l'emploi des seniors et voir tout ce que les entreprises peuvent mettre en place pour mieux accueillir et mieux garder, voire mieux faire partir un profil senior.
Ça va, c'est pas trop galère de réussir à écrire 180 pages? Ça demande un peu de rigueur, non?
Non, parce que la police est grosse, hein, la police est grosse quand même.
Non, pas du tout, on est tenu, mais non, peut-être que je ferai appel à des amis RH pour des interviews, sait-on jamais. J'ai besoin de témoignages.
Deuxième question.
Bah, du coup, j'allais poser l'actu du moment, mais c'est un peu l'actu...
Oui, troisième question.
Si vous étiez une personnalité publique assez exposée en ce moment, qui seriez-vous?
Bernard Tapie.
Bernard...
J'ai compté comment, c'est pas Bernadette Chirac.
De Netflix, ouais. Je l'ai pas vu cette série. Ok, ça t'inspire?
Ah, ça m'inspire totalement. Ce mec est un génie. Il a compris beaucoup de choses avant tout le monde. Avec un culot de dingue.
Il a fini en tôle, non?
Ouais, mais je suis fan quand même. Bah écoutez, vous m'apporterez des oranges. Mais non, je suis grande fan de sa vie, de son œuvre, de son histoire.
Alors, j'ai absolument pas la réponse à cette question. Hein. Pour le coup, vraiment, je suis pas du genre à mettre en avant. Donc, du coup, pour moi, une personnalité exposée, ce serait juste un véritable calvaire. Donc,
oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un Farmer, qui t'inspire?
Ah, oui, pourquoi pas Mylène Farmer, c'est vrai.
Elle est connue, mais personne la voit. Du coup,
c'est pas mal. Elle est pas exposée en ce moment, mais je trouve que oui, c'est plutôt
Punk,
pas mal.
Ou s'il y a, bah, tu vois, dans le concept, il y a un côté, on connaît, mais on connaît pas.
Oui, bah, Mylène Farmer.
Mylène Farmer. Mylène Farmer.
Voilà, bah, du coup, l'actu du moment n'étant pas passé, je pense que c'est bon. On a... Sauf si tu veux répondre.
Mylène Farm. Bon, merci Stéphane beaucoup. Cet épisode est donc clos. C'était un plaisir de recevoir une nouvelle fois Amélie Favre-Guittet et Aurélie Trostler pour parler des seniors. On se dit à très vite pour un nouvel épisode de Ça vient des RH.
Salut.
Ciao.